Barbie, présenté par Eve Bartin.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante de Radio Alpa. Aujourd'hui, je reçois Louis Orvin, réalisateur du court-métrage Un ruisseau impur. Tu es venu avec Timothée et assistant réalisateur, pardon, et Mathias, acteur principal. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
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 En fin d'émission, je vous propose de continuer de parler de cinéma et je vous parlerai de Trainspotting. Je vous propose pour commencer d'écouter Time to Pretend de MGMT.
Our decision to live fast and die young.
de retour dans l'amphi sur Radio Alpa. Je suis en compagnie de Louis, Timothée et Mathias qui viennent nous parler du court-métrage Un ruisseau impur réalisé par Louis. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu tous les trois déjà?
Donc moi je me présente, Louis Hervin, donc je suis comédien sortant du conservatoire du Mans il y a un an et demi maintenant. Et donc à la suite de ça, en sortant du conservatoire, j'ai décidé de me lancer dans la réalisation. Et donc je décide, ça fait maintenant plus d'un an qu'on travaille sur le court-métrage qui traite de la Première Guerre mondiale, qui s'appelle donc Un ruisseau impur.
Donc moi c'est Timothée Berhardt, donc sur le projet je suis assistant, réalisateur et comédien du coup dans le tournage de Un ruisseau impur. Donc je suis aussi comédien sortant du conservatoire de Théâtre du Mans, donc je suis parti du conservatoire en juin-juillet du coup 2025. Et du coup maintenant je décide d'accompagner Louis sur son projet et à côté voilà je fais des tournages. Dans l'acting, voilà.
Et moi c'est Mathias Labrosse, je suis comédien sur le projet de Louis, je joue le personnage principal je suis aussi au Conservatoire du Mans, je suis pas encore sorti, je suis encore élève là-bas et voilà.
Et comment est-ce que vous en êtes arrivés au cinéma tous les trois? Est-ce que c'était une suite après le théâtre ou pas du tout
Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai l'obtention d'une licence de cinéma aussi à Rennes, donc j'ai un peu baigné dedans pendant 3-4 ans et puis en sortant de ça je me suis dit il faut absolument que je travaille j'avais envie de travailler mon côté comédien, mon côté jeu et donc j'ai fait deux conservatoires, celui de Laval et ensuite celui du Mans et je voulais toujours garder cette âme du cinéma que j'avais et en même temps essayer de lier avec le théâtre. Donc j'ai appris au conservatoire à maîtriser la mise en scène, la direction avec les comédiens, tout ça. Et puis après, je me suis dit, en sortant de tout ça, je veux faire vraiment ce qui me plaît, et donc relier avec le cinéma et commencer par des courts-métrages comme ça, avec des amis de théâtre. Donc voilà.
Moi, de mon cas, ça fait très longtemps que je fais du théâtre. Donc, j'ai commencé par des petites troupes amateurs. J'ai commencé à l'âge de 6-7 ans. Et donc, voilà, après, je suis rentré au Conservatoire de Théâtre du Mans parce que je voulais vraiment faire mes études à fond là-dedans, parce que moi, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. En fait, pour tout dire, c'est mes parents qui m'ont mis à l'âge de 6-7 ans dans une troupe, sans que je demande rien du tout. Et puis, en fait, ça m'a vraiment plu. Donc, en fait, je suis resté là-dedans et tout. Et puis, là, en sortant du conservatoire, dû à plein de projets, je décide de me consacrer à fond du côté, du coup, cinéma. Et du coup plutôt comédien, de base je suis pas trop dans la technique derrière, c'est juste sur le court-métrage de Louis, voilà, je décide du coup d'être assistant réalisateur, mais du coup ouais, moi je suis plutôt côté comédien, et du coup voilà c'est ça qui me plaît le plus.
Et pour moi je suis, comment, j'ai envie de jouer, ma passion c'est de jouer, j'aime pouvoir pratiquer ce métier, et actuellement, étant donné que je suis encore élève au conservatoire, je fais beaucoup plus de théâtre, là je suis acteur dans le projet de Louis, parce que c'est un très bon copain, et quand il m'a proposé le projet, j'ai accepté avec un grand sourire, puis j'ai lu le scénario, j'ai adoré le scénario, je me suis dit ça me donne envie, vas-y j'y vais, mais à l'avenir je sais que je préférerais rester sur les planches et continuer à faire du théâtre. Si des projets cinéma se présentent, tant mieux, comme j'aime jouer, il n'y a aucun problème à switcher avec les deux, parce que c'est deux styles de jeu très différents.
Je voulais te poser la question.
Oui, c'est deux travaux très différents, même tout le travail en amont pour préparer le jour J, c'est très très différent, et même sur le moment même. Jouer devant un public, c'est pas du tout jouer devant une caméra. Et j'ai une petite préférence pour le public parce qu'il y a une adrénaline en plus. Mais oui, le cinéma, c'est quand même une expérience très plaisante et j'hésiterai pas du tout à y retourner si besoin.
Timothée, tu disais que tu étais assistant réalisateur. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer en quoi consiste ton rôle?
Alors, moi, mon rôle... Alors, en fait, ça dépend parce que là, on est sur un tournage de, on va dire... petite comité, on n'a pas une très très grande équipe, Donc on n'a pas tout ce qui est producteur, etc. Après, on a toutes les associations qui nous suivent, bien évidemment, les partenaires, etc. Moi, mon but dans ce court-métrage, c'est de faire un peu tout l'aspect logistique. Donc déjà, premier point, déjà, c'était du coup de contacter du coup des partenaires, parce que les associations, on les avait déjà. Donc c'était voilà, contacter des partenaires pour avoir le maximum de subventions ou même pour nous aider sur la logistique, que ça soit des camions, des choses comme ça. Donc voilà. Après, je fais tout ce qui va être les feuilles de service. Donc les feuilles de service, c'est les plannings des jours de tournage. Donc voilà, il y a vraiment une feuille de service pour chaque jour. Et après, faut faire en fonction des séquences qu'on a à faire, des scènes, des choses comme ça. Après voilà, c'est aussi organisé aussi, puisqu'on n'a pas de producteur. Donc moi, je vais gérer tout ce qui est l'aspect du repas pour nourrir tout le monde, parce que les tournages, ça prend des grosses journées. Donc voilà, je suis là, ces temps-ci, dans la production, là, je suis beaucoup derrière mon ordi de 8h du matin à 18h le soir, mais c'est ce qui me plaît. Et je sais le rendu que ça va faire. Et puis pareil, Louis, c'est un très très bon pote. Et donc, je le fais parce que son court-métrage, comme l'a dit Mathias tout à l'heure, il est juste incroyable, le scénario est incroyable. Et à croire que ça plaît, puisqu'il y a plein de gens qui nous suivent sur le projet, beaucoup de partenaires, donc c'est ça qui est le plus important. Et que le plus important aussi, c'est qu'on mène ce projet à bien.
Donc, c'est ton scénario, oui. Louis. Comment t'en es venu à faire ce film? Donc, on suit l'histoire d'un soldat qui déserte pendant la guerre de 14, mais voilà, comment est-ce que ça t'est venu? Pourquoi ce film, en fait?
J'ai toujours été intrigué par les films de guerre, et ce qui me frustrait très souvent, c'est on abordait souvent le point de vue de la guerre sous le point de vue du groupe, de la troupe, des frères d'armes, tout ça. Et j'avais envie aussi, dans un coin de ma tête, d'en faire un, depuis que je suis très jeune, mais de faire du point de vue d'un seul personnage, qui aurait pu être un autre, et qui peut être n'importe qui d'autre. Et c'est depuis que j'ai vu le visionnage du film 1917, qui est sorti en 2019, il me semble. Oui, c'est ça, 2019. Et là, coup de cœur total, quoi. Je me dis, bah voilà, enfin un film qui m'a vraiment branché, et où on peut suivre la psychologie du soldat français de la Première Guerre mondiale. On a vraiment, je pense que beaucoup ont envie de savoir, de comprendre, d'apprendre de ce qui se passe dans la tête d'un homme dans cette situation-là, quoi. Et de le rendre seul, mais à la fois de le mettre dans une grande échelle, c'est de parler d'un point de vue qui est assez petit, donc d'une seule personne, mais de voir ce que ça peut engranger aussi, engendrer dans un point de vue du groupe, en fait. Et voilà, moi j'avais vraiment envie de, suite à ce film-là, j'avais vraiment envie de développer un parcours d'un soldat qui déserte. Donc ça met aussi en relation, ça remet en question son honneur et son devoir de soldat, tout ça. Donc il y a plein de questions qui se posent, et c'est tout un trajet, c'est un chemin qu'on suit, et y a plein de questions, plein de rebondissements, tout ça, quoi.
Et t'as parlé de 1917 comme étant une de tes inspirations. Est-ce que c'est aussi une inspiration pour l'histoire, mais aussi la manière de filmer? Est-ce que tu as d'autres réalisateurs dont tu t'inspires?
Alors, il y a deux autres films aussi qui m'ont inspiré dans l'écriture. Il y en a plein d'autres aussi dans le choix que j'ai pu faire. Mais il y a aussi À l'Ouest, rien de nouveau, par exemple, qui est sorti en 2023 ou 2022, de Edouard Berger, ou Berger, je sais pas comment on dit. Qui est sur Netflix d'ailleurs, donc n'hésitez pas. Parce que pareil, on suit le parcours, donc là il y a beaucoup plus de moments en groupe, mais aussi on suit aussi la psychologie du personnage, la décadence, la dégradation du comportement du soldat allemand, là, en l'occurrence. Et puis, en termes de fatigue physique du personnage, je me suis beaucoup inspiré du film The Revenant, qui est sorti en 2016. Là, pareil, on suit un personnage qui est vraiment à deux doigts de la mort, et c'est un sujet qui m'intéresse aussi, d'avoir cette espèce d'instinct de survie maximal, en fait, de toucher le fil de la mort. Et donc, dans mes inspirations, il y a surtout ces trois films-là. Et donc, voilà. Et notamment, 1917 m'a beaucoup inspiré dans la technique, puisque effectivement, je suis un grand fan de plans séquences. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les plans séquences, c'est des longs plans.
Je vais te demander du coup d'expliquer, mais fais-le du coup.
Et donc, je m'explique.
Tu me devances.
Un plan séquence, c'est un long plan où la caméra ne s'arrête pas de filmer. Donc, par exemple, on suit un personnage, je sais pas, et il n'y a pas de cut en fait. Il y a très peu de cut et on suit le personnage en direct. C'est comme si c'était en live. Et donc il y a beaucoup de préparation, beaucoup de risques aussi, mais ça laisse l'impro évidemment aux comédiens et à essayer de voir aussi ce qui se passe, d'avoir une grande immersion. Et je trouve que le plan séquence est assez fort pour ça. Et 1917, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film qui est en partie que en plan séquence. Donc voilà, on suit le personnage tout le long en temps réel. Donc ça, c'est ça qui m'intrigue, c'est d'avoir la réaction de la personne en direct ou instinctivement.
Mathias, comment est-ce que tu en es venu à ce rôle? Est-ce que c'est Lou qui avait pensé à toi directement pour ça? Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Enfin, qu'est-ce que tu trouves intéressant dans ce rôle de jouer justement un soldat?
Alors, je pense que Louis avait déjà pensé à moi au moment de l'écriture.
Oui.
Parce que non, mais quand
je t'avais repéré.
On a fait 2 ans ensemble au conservatoire et 2 ans on s'est beaucoup rapprochés. En plus, on était un tout petit groupe au moment où on y était. On n'était que 3 la première année où on était ensemble avec Louis, donc on s'est très très vite rapprochés à 3. Donc on s'entendait très bien et donc oui, il a pensé à moi au moment d'écrire le personnage et quand il me l'a proposé, ce qui m'a intéressé. Bah, c'est comme vient de le dire Louis, c'est toucher la corde raide du personnage, aller vraiment au bout de la limite de la survie, qui peut être très intéressant en termes de jeu, en termes d'état physique à aller chercher. Et c'est une période, la guerre 14-18, qui m'a étrangement toujours attiré un peu. Je trouve que c'est une esthétique assez, assez frappante, j'ai beaucoup dans ma filmographie personnelle des films qui m'ont marqué, qui parlent de cette période-là, notamment Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, qui est un film absolument magnifique que je conseille à toutes les personnes qui ne l'ont pas vu.
Je suis d'accord.
Et donc le projet m'a tout de suite attiré et donc comme tu me l'as proposé, ça a été une évidence de dire oui et ça va m'apporter beaucoup, même en termes d'expérience. Ça va être mon premier vrai tournage sur un long temps. Parce que j'avais déjà tourné dans un film, mais c'était sur 2 jours. Là, ça va vraiment être sur une grosse période de tournage. Donc, je vais aussi éprouver ça. Éprouver la fatigue, éprouver le travail sur le long terme. Et c'est quelque chose qui va beaucoup m'apporter, même pour après.
Je vous propose de marquer une courte pause musicale en écoutant Retour de bâton de Sexy Sushi. On se retrouve juste après. J'ai bien trop peur d'être heureuse. De retour dans l'amphi sur Radio Alpha 107.3 FM Le Mans. Je vous propose qu'on aborde un peu plus la partie tournage maintenant. Donc le tournage, il va avoir lieu en 2026. Ça va durer combien de temps ?
Ça va durer 10 jours, du 14 au 24 février 2026.
Et où est-ce que vous allez tourner ? Parce que l'histoire, elle se déroule vers Verdun, c'est pas du tout proche du Mans. Et je suppose qu'on peut même pas tourner à Verdun comme on veut, je sais pas si c'est classé ou pas. Vous allez tourner où du coup ?
Alors, sur les 10 jours de tournage, on va déjà tourner 2 jours à Sargélé-le-Mans. Donc on va en fait tourner chez moi, concrètement, parce que il y a du terrain chez moi et on a de la forêt, etc. Et donc en fait, les deux premières séquences se tourneront chez moi. Et ensuite, on a 5 jours, on va tourner à la forêt de Mulsanne. Et il y a ensuite 2 jours et demi à peu près, on va tourner à la forêt de Brocéliande, donc près de Rennes.
Ouais. C'est en Bretagne, c'est plus loin.
Ouais, un peu plus loin.
Plus exotique.
Donc plus de logistique.
Plus difficile aussi.
Ouais, c'est clair.
C'est quoi le point qui vous semble le plus difficile ? Est-ce que c'est une reconstitution de scènes de combat ? Parce qu'on parle d'un film qui se passe pendant la guerre de 14, pardon. Ou est-ce que c'est plutôt une difficulté technique ? Tu parlais du plan séquence tout à l'heure.
Ouais, t'as raison, c'est ça.
oui. Alors, je pense que forcément, ça en fait partie. Je pense que là, à l'heure actuelle, ce qui est assez difficile, c'est d'essayer d'avoir une organisation optimale et à la fois d'essayer de solliciter tout le monde en temps et en heure. Donc forcément, ça appelle à relancer certaines, à ce qu'il y ait des désaccords, tout ça. Et ce qui est difficile aussi, il faut le reconnaître, c'est que c'est un tournage qui est... volontairement pas rémunéré, parce que en tant que premier court métrage on peut pas se le permettre, donc forcément on a perdu des gens à la suite de ça, mais on en a retrouvé d'autres, donc y a aucun souci là-dessus. Et le point le plus difficile sur le tournage, tu veux dire?
Ouais, qu'est-ce qui, enfin là comme ça, qui vous semble le plus dur?
Oui, que ce soit logistique, ouais. Ou soit sur le tournage,
ouais.
Bah, d'essayer de Mathias, tu me diras, mais c'est de trouver l'immersion, en fait, ouais. De trouver l'état, la situation, en fait.
Moi, j'ai pas trop peur de ça, parce que, étant donné qu'on va tourner en hiver et que je vais beaucoup tremper, je pense que l'état physique, il sera là.
Ouais.
L'effort physique sera là. Moi, j'ai pas trop d'appréhension, j'ai pas vraiment de réponse. Je me dis que ça va être que du plaisir, que du kiff, et on va y aller à fond. Mais et même si ce sera douloureux, on va y aller. Voilà.
Est-ce que la difficulté de faire quelque chose d'assez proche du réel, il n'y ait pas d'anachronisme, que ce soit très proche de l'histoire, quoi.
Ouais.
Est-ce que ça vous fait peur de pas... Est-ce que c'est grave si ça ne se rapproche pas trop, ou
Que ce soit loin de notre réalité aujourd'hui ?
Non, mais je veux dire, j'ai ma formule même à question. Tu vois...
Ça ressemble pas à l'histoire.
Ouais, ça ressemble pas à ce qui s'est passé vraiment, tu vois. Est-ce que t'as très envie d'être proche de ce qui s'est passé ou tu te dis que c'est pas si grave s'il y a des choses qui sont...
Proche de
parce
ce qui
que dans
s'est
tous
pas...
les cas, personne n'y était ici.
Bien sûr, proche de ce qui s'est passé, je ne sais pas, parce que déjà, de une, je n'y étais pas. Et...
Enfin...
Et de deux, je l'ai écrit de, enfin, c'est pas tiré d'une histoire vraie.
Oui, oui, bien
donc,
sûr.
Donc,
non, je parle à l'écran vraiment reconstituer quelque chose de qui semble réel, quoi.
Ouais. Bah, en toute sincérité, c'est de penser à chaque détail, de penser à chaque mouvement, de penser à chaque décor, de penser au moindre élément qui pourrait faire qui pourrait emmener le spectateur dans autre chose. Voilà, après, moi non, je suis assez confiant là-dessus et j'ai aucun problème. Voilà, faut juste trouver une organisation optimale et essayer de faire en sorte que les comédiens et les personnages vivent le moment et que nous, du côté de la technique, on essaye de garder en mémoire ce truc-là, quoi, d'essayer de capter l'attention du spectateur.
Et justement, concernant donc, cette véracité historique, on va dire, les costumes, les armes et puis tout ce qui est objets, vous avez procédé comment ?
Alors, on a eu beaucoup de chance, parce qu'à la base, on avait prévu la location.
Ça doit coûter très cher.
Ça coûte très cher.
Je ne dirais même pas les prix.
Ouais, en plus, le problème de la location, c'est qu'il faut les commandes pour tout ce qui est boue et tout
bah
ça.
Oui, oui, bien sûr.
Faut pas abîmer le costume. Donc, c'est très compliqué.
À tout hasard, j'ai rencontré un gendarme qui s'appelle Vivien Blandin, qui est sur Rennes. Et on l'a rencontré. Et il fait des expositions, en fait, souvent pour les 11 novembre. Il fait des expositions avec des costumes et je lui ai demandé s'il était possible d'emprunter ses costumes, ses armes, même des accessoires de décor. Et il m'a dit bien sûr, aucun problème. Lui, tout ce qui compte, c'est de revivre ce moment, quoi, de recréer une reconstitution de cette période à l'écran. Donc il ne demande pas un retour financier derrière, quoi. Donc on a eu énormément de sens là-dessus, et sachant que avant de commencer toute la production, pour moi, c'était l'obstacle numéro un, quoi. C'était les costumes, comment on va faire, quoi.
En fait, pas du tout.
En fait, pas du tout.
Pas du tout.
On a aussi fait marcher nos contacts Manceau. Ouais. On a eu la chance de, grâce au conservatoire,
oui,
on peut le dire, on a été en contact avec des compagnies du Mans, et dont des membres de compagnies qui ont pu nous prêter d'anciens costumes qu'ils avaient utilisés pour leur spectacle.
Il y avait une pièce au Mans, d'ailleurs, j'ai oublié le nom de la compagnie, mais il y avait une pièce avec deux poilus, justement.
Oui. Alors, je ne sais plus, mais je sais que le comédien s'appelle toujours.
Oui.
On l'embrasse. il s'appelle Didier Bardou. Et donc,
il me semble qu'il y a Aurélien Jarry dedans. Aussi.
C'est ça.
Ouais.
Oui, c'est ça. Oui, bon, on a un ami aussi, Titouan Houlet, qui. Et à l'époque, donc du coup, Didier Bardou a gardé ses costumes de théâtre et de la Première Guerre mondiale. Et donc, pareil, à tout hasard, on a discuté avec lui. Il a dit, mais moi, j'ai des costumes, les gars. Donc,
il nous a avoué que c'était des vraies tenues de 14-18. Et ça, ça me, genre, pour moi, qui veux le porter, ça te met un peu un poids.
Est-ce que ça, justement, du coup, de te dire ça, ça te met encore plus dans la peau de ce personnage?
Oui. Puis il y a cette idée aussi de transmission. Quand je me dis, ça a été porté par une personne qui l'a vraiment vécu, qui est peut-être mort dedans, je sais pas. Et ça me met quelque chose en plus, ouais. Ça.
Et pour la figuration, vous allez faire comment? Enfin, donc il va y avoir un combat, de ce que j'ai compris. Enfin, vous. Ça va être... Tu peux pas te combattre tout seul, Mathias. vous avez prévu quoi
Alors, sans essayer d'en dire de trop, il y aura effectivement une séquence d'assaut.
Ok.
Et donc, pareil, ça aussi, c'est un challenge que je me suis fixé et qu'on va réaliser. et du coup, les figurants, bah, c'est tout simplement des amis en fait qu'on a contactés du conservatoire. C'est ça l'avantage avec le conservatoire, c'est que ça nous permet de créer un réseau affolant, quoi, extraordinaire. Et les gars, à chaque fois, ils sont hyper chauds pour les projets, etc. Donc, merci à eux déjà, c'est vrai que je ne les ai pas remerciés, mais merci beaucoup. Et puis, je sais qu'ils sont enchantés de participer à ça. Donc, la figuration, non, on a fait marcher notre réseau, du Mans.
Et donc, j'imagine que vous n'êtes pas que tous les trois pour le tournage. Vous êtes entouré d'une équipe de combien de personnes? Donc, majoritairement vos amis du conservatoire, j'ai bien compris.
Alors, oui, en fait, tout ce qui est du coup figurant, comme vient de le dire Louis, du coup, c'est bien tous nos amis proches du conservatoire. Après, tout ce qui est équipe technique, à part deux personnes, si je ne me trompe pas, qui est Tristan Froger, qui est notre régisseur, lui qui vient du conservatoire. En fait, toutes les autres personnes ne viennent pas du tout du conservatoire. En fait, on a six personnes qui viennent de Rennes, voilà, qu'on a rencontré il y a bien deux semaines maintenant. Et, ouais.
Donc voilà. Nouveau,
donc en fait, voilà,
c'est,
on les connaissait pas du tout.
On les connaissait pas du tout. Et je ne sais plus du tout comment on les a rencontrés.
On avait fait une annonce en fait sur le réseau. On cherchait une équipe technique et vraiment 24 heures après.
C'est quelqu'un qui nous envoie un mail et puis en fait de fil en aiguille, il a ramené tous ses potes, toute son équipe. Donc ça marche toujours comme ça. Et donc le trois quarts viennent de Rennes. Après, si je dis pas de bêtises, c'est Toulouse l'autre personne.
Il y a l'ingé son qui est Toulouse.
L'ingé son qui est Toulouse. Et donc le trois quarts de l'équipe technique, on les connaît pas de base. Donc voilà, c'était surtout de bouche à oreille.
Mais c'est vrai que c'est ça qui était assez drôle, c'est que on avait créé une équipe artistique, mais on n'avait pas l'équipe technique. Et l'équipe technique n'avait pas l'équipe artistique. Du coup, on s'est rencontrés et puis ça a super bien matché. Et puis,
Ils sont tous sympas.
On est en train de travailler sur l'aspect technique avec eux depuis un mois maintenant.
Ça demande beaucoup de travail.
Je veux bien le croire. Pour ce court-métrage, vous êtes accompagné de la Cité du film au Mans et de l'asso rennaise Viry 17, si je ne dis pas
c'est
de bêtises. Est-ce que vous pourriez un peu présenter ces deux structures et puis dire c'est quoi leur implication dans le projet, comment elles vous aident?
Alors Viry 17, je les ai rencontrés en mars dernier, il me semble. Donc c'est une association sur Rennes, effectivement, qui aide des jeunes créateurs dans le audiovisuel, musique, il me semble. Non, cinéma audiovisuel. Et donc j'ai déposé mon dossier comme toute personne aléatoire, et puis ils m'ont accepté de soutenir mon projet, de m'accompagner. Et donc, à la suite de ça, à la rentrée dernière, je me suis aussi adhéré. Je suis maintenant adhérent à la Cité du Film au Mans, donc une association de cinéma audiovisuel aussi. Mais ils ont deux rôles bien distincts tous les deux. La Viry 17 à Rennes se gère déjà le recrutement de l'équipe technique de Rennes, d'où l'équipe qu'on a. Il gère aussi une petite partie du financement. Donc voilà. Et puis, il gère aussi partiellement la partie autorisation de tournage à Brocéliande. Donc voilà, on voit ça avec eux. Et la Cité du film, on gère avec eux notamment parce qu'ils ont ils font de la location de matériel. Et puis aussi pour l'équipe technique du Mans, qu'on a pu rencontrer notamment en post-production.
Bah, en même temps qu'on parle des associations, j'aimerais remercier aussi tous les partenaires qui nous suivent. Du coup, je leur fais une petite publicité du coup parce que on a quand même bien deux confirmés pour l'instant, cinq partenariats. Donc voilà, donc on a le pâté du Mans, on a William Sarrazin Traiteur, la boulangerie Ange, le marché de Beaufeu et AGPS Sécurité qui nous suivent sur le projet pour le moment. Donc ils vont nous aider, que ce soit question du coup logistique ou même pour faire de la com comme on est en train de faire en ce moment sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, ils nous aident tous de près ou de loin et ils vont nous aider, voilà. Qui est sur le repas du midi, ou c'est aussi pour des Tokiwoki, parce que c'est très important sur un tournage, surtout quand on est en pleine forêt et dans un milieu naturel. Donc voilà, donc je voudrais faire un petit remerciement pour ces personnes.
Merci à eux.
Je me permets à mon tour. on a ouvert.
Une cagnotte. Mais vas-y.
On a ouvert une cagnotte en ligne parce que, vu qu'on est une petite équipe, c'est un petit projet, on a besoin de financement.
Bien sûr.
Et donc, on a ouvert cette cagnotte en ligne et on remercie énormément toutes les personnes qui mettent ne serait-ce qu'un euro dans le projet parce que ça nous aide énormément. Ouais. Et donc, j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous aident à créer ce projet.
Et on pourra retrouver cette cagnotte sur vos réseaux sociaux et tout ça, j'imagine.
Tout à fait. Oui, nous avons créé il y a un mois et demi, deux mois maintenant.
Ça fait déjà deux mois.
Ça fait déjà deux mois. On a créé un compte Instagram qui s'appelle Ruisseau Impur. Donc voilà, je vous invite à vous abonner, à suivre le compte. On met à chaque fois du contenu toutes les semaines. Et puis donc en bio, on a mis le lien de la cagnotte. Donc n'hésitez pas. Si ça peut être notre petit cadeau de Noël, ce sera avec grand plaisir. et puis voilà, de toute façon, on espère qu'on aura toutes les ressources nécessaires pour avancer.
Mais écoutez, je vous remercie tous les trois d'être venus ce soir dans l'amphi. Donc comme on le disait, vous avez une cagnotte, le lien il sera aussi dans la description du podcast sur radioalpa.com et on peut vous suivre aussi sur vos réseaux sociaux. Ben, merci encore à vous trois.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Je vous propose de marquer une pause musicale et juste après on parlera encore de cinéma. Choose life, choose a job, choose a career. Choisis la vie, choisis un travail, choisis une carrière. Cela pourrait nous faire penser à ce que nos profs nous répètent dès le collège, mais il n'en est rien ici, c'est les premiers mots du film Trainspotting. Trainspotting, c'est un film dégueu sur la drogue avec des gens sales. Je déconseille de le regarder en mangeant, erreur que j'ai faite. Trainspotting, c'est d'abord un livre de Irvin Welsh paru en 93, puis adapté par Danny Boyle en 96. On y suit Mark Renton, un toxicomane qui tente tant bien que mal de se sevrer et de s'éloigner de ses amis qu'il juge néfastes. Le film met en lumière les conditions de vie déplorables de la jeunesse de l'époque en Écosse et de la dépression économique. Trainspotting, c'est aussi une BO particulièrement riche, un extrait de Carmen, mais aussi les groupes de Britpop de l'époque comme Blur, Elastica ou encore Pulp, et le son reconnaissable entre mille de Born Sleepy. La BO explore les genres musicaux, les mêle et ajoute une forme de modernité au film. Bien que certains titres ont été composés exprès, je pense au titre de Pulp que Jarvis Cocker a créé sur mesure, il y a une volonté d'aller vers du nouveau. Le titre Sing est sur le premier album de Blur, bien avant les cultes Girls and Boys, Song 2 ou encore Park Life. Enfin bon, Trainspotting a bientôt 30 ans, mais il est toujours jeune et n'a pas vieilli d'un poil. C'est déjà la fin de cette émission. Je vous remercie Louis, Mathias et Timothée d'être venus ce soir. Donc je le rappelle, le court-métrage que tu réalises, Louis, s'appelle Un ruisseau impur et tu as mis en ligne une cagnotte qui sera disponible sur le site de Radio Alpa et aussi sur vos réseaux sociaux. Donc, c'est quoi votre Insta?
Le Insta ruisseau impur.
Ok, voilà. Tout simplement. C'est mais juste ruisseau impur sur Insta. Je le mettrai aussi en description du podcast. Je rappelle que cette émission, elle sera rediffusée demain à 9h et puis comme je l'ai dit, en podcast sur le site radioalpa.com. Moi, je vous dis à demain, je recevrai l'association Electric Campus qui vient nous parler du tremplin Focus.
Présenté par Elle.